Donc, c'est la dernière série de prédications sur la foi de Jacob. Nous avons vu effectivement sur la vie de Jacob qui était très difficile. Hein. Il a mené une vie d'un pèlerin. Il a pèleriné. Hein? Oui, ça... ça invente un mot. Voilà, il a été un pèlerin, voilà. Hein. Il a fait le pèlerinage pendant qu'il était sur la terre, en traversant des épreuves, Et c'est vrai que la vie, si je résume un petit peu, sa vie n'était pas du tout facile. Il y a eu la rancœur, la colère de son frère Ésaü, suite à sa tromperie. Il y a aussi sa vie passée pendant 20 ans chez Laban, son oncle, qui lui a appris comment est-ce que les gens peuvent se sentir trompés par les autres personnes. Il a eu entre-temps deux femmes qui étaient jalouses l'une vis-à-vis de l'autre. Donc il a connu des problèmes familiaux. Entre-temps, sa fille Dina, par la suite, a été violée par un fils d'un chef de clan à Sichem. Donc une malheur dans la famille même. Par la suite aussi, les frères, ayant appris cette nouvelle, se vengent et tuent toutes les personnes, tous les hommes, en tout cas, de Sichem, de ce clan. Donc, ça s'est passé par Siméon et Lévi. Et puis, la famille devient donc en danger suite à cet événement. Mais Dieu les épargne et fait monter à Bethel pour rencontrer Dieu. C'est ce que nous avons vu jusqu'à la semaine dernière. En tout cas, ce que nous voyons à travers sa vie, c'est que Dieu avait préservé la vie de Jacob de tout danger. Et pendant ce temps, encore, il connaît encore une autre souffrance, c'est qu'il va apprendre qu'il a perdu son fils, Joseph. Et pendant des années, il va souffrir de cette perte de son fils adoré, Joseph. Il vit dans le deuil. Après, les péripéties, le père et Joseph se retrouvent enfin et la vie commence à sourire pour Jacob. Il arrive sur la terre d'Égypte. Et c'est à partir de ce moment-là que la vie semble sourire pour Jacob. Dieu le console vers la fin de sa vie, donc. J'aimerais vous lire quand il arrive sur Jacob, chapitre 47, dans Genèse, chapitre 47, à partir de verset 8, où Pharaon, donc, interpelle Jacob. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Autrement dit, quel âge tu as ? Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage. » Là, il dit encore pèlerinage. Hein, il se sent comme un résident temporaire, comme un étranger sur cette terre. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Il a 130 ans quand il arrive en Égypte. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Là, il est en train de dire, j'ai 130 ans, je suis jeune encore. Hein, par rapport à mes ancêtres. Donc vous, je pense que la doyenne de notre église, c'est Bernadette, voilà, mais elle est encore jeune, hein, par rapport aussi à Jacob, qui se nomme un peu jeune, peu nombreux en tout cas, mais il dit aussi à propos de sa vie, que ma vie était mauvaise, c'est-à-dire qu'il a connu des difficultés. Il a connu des épreuves, il a traversé des tempêtes, même des ouragans. Et puis, au verset 10, il dit, Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. C'est assez étonnant. Là, il vient de dire, je suis un misérable, je n'ai pas connu beaucoup de bonheur. Dans ma vie, il n'y a rien à faire valoir. Mais malgré tout, moi, je peux te bénir. Voyez un peu la progression de sa foi. Il n'a pas grand-chose à dire. Enfin, je veux dire, certaines personnes pensent qu'il faut beaucoup de choses pour pouvoir donner, ou encore pour pouvoir bénir, non ? Là, il le bénit dans l'humilité, Parce que Pharaon, il avait tout en lui. Je n'ai rien, grand-chose, mais je suis le serviteur de Dieu. Je connais le Dieu qui est tout-puissant, le créateur du ciel, de la terre. Ce Dieu qui, malgré tout, malgré les épreuves, m'a protégé. Et avec, au nom de ce Seigneur, je peux te bénir. Que nous puissions aussi être des gens comme Jacob, qui puissent bénir nos entourages, bénir les proches, bénir non seulement nos frères et sœurs, mais aussi les gens que nous côtoyons, que nous connaissons. Et donc, à partir de ce jour, il est en paix dans ses vieux jours. Il a, malgré toutes ces épreuves qu'il a pu traverser, à partir de ce moment-là, pendant 17 ans, il va être en paix. Pendant 17 ans, donc, il a vécu à Goshen, sur une terre idéale pour les bergers. Il est rassasié de tout, et il a bien profité de sa famille, de Joseph, et de ses autres enfants. La famille prospère, et puis il est heureux. Je dirais que la vie de Jacob se termine en apothéose, je dirais, comme ça. C'est un coucher de soleil lumineux, bienfaisant, après une journée d'orage qui se sont déchaînés durant toute sa vie. Maintenant, il sait qu'il va bientôt mourir. Il a maintenant 147 ans. Juste avant de mourir, c'est dans le chapitre 49 que nous allons voir aujourd'hui, ce matin. Et il sait qu'il va bientôt mourir. Alors il demande deux choses à ses enfants. Il aimerait bénir d'abord ses enfants, ses 12 fils. Et puis, deuxième chose qu'il demande, c'est qu'il soit enterré dans la terre promise aux côtés d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca et de Léa. La conclusion de sa vie, c'est de bénir ses enfants. La conclusion de sa vie, c'est qu'il a été présent en espérant cette promesse de Dieu qu'il avait entendue de Dieu. Et il aimerait encore transmettre cet héritage de foi à ses enfants. Quelle serait votre conclusion de la conclusion de votre vie à la fin de votre séjour ici-bas? C'est une question que je me lance aussi. Avant de bénir les autres enfants, au chapitre 48, Jacob appelle Joseph et ses deux enfants, Manassé et Éphraïm. Au verset 5, 48, verset 5, il dit « Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. » Là, il est en train de dire, les enfants que tu as pu avoir pendant mon absence en Égypte, les deux fils Manassé, l'aîné, et Éphraïm, j'aimerais les adopter. Ils vont devenir mes propres enfants. Ce ne seront plus tes enfants, mais mes propres enfants. Donc, parmi les 12 tribus, il y aura aussi Manassé et Éphraïm. Lorsqu'il y aura un partage des terres, il y aura aussi Manassé et Éphraïm qui feront partie de ces 12 tribus. Donc, en fait, il y aura 13, puisque Joseph ne fait plus partie, mais plutôt, il y aura 13 tribus. Et puis, comme nous savons très bien aussi que la tribu de Lévi n'avait pas de partage de terre, il y aurait en fait 12 partages de terre. Donc, il les adopte. Quelle drôle de décision! Je continue la lecture, versets 18 et 19. Joseph, donc, avant de bénir les autres enfants, il va aussi bénir ses deux enfants, ses deux nouveaux enfants adoptés. Et là, il dit de faire venir les deux enfants, Manassé et Éphraïm, et puis il les impose avec ses mains pour pouvoir les bénir. J'espère vraiment que vous puissiez aussi transmettre cet héritage de foi à vos proches et à vos enfants, à votre future génération. Et quand il impose la main, il impose la main avec sa main droite sur le cadet. Il impose avec la main sur le cadet et sur la main gauche sur l'aîné. Et là, Joseph, il n'est pas content. Et il vient auprès de son père en disant, mais père, tu t'es trompé. L'aîné, c'est celui qui est à gauche. Hein? Enfin, il avait croisé les mains. Parce qu'en fait, il avait placé les enfants, l'aîné à droite et le cadet à gauche, mais il avait croisé les mains pour pouvoir bénir. Et là, il dit, mais pas père, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu t'es trompé. Et là, le père refuse et il dit, je sais. Je ne suis pas aveugle, autrement dit. Je sais ce que je suis en train de faire. Et là, au verset 19, il dit, lui deviendra un peuple, le fils aîné. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Une multitude de nations. Il est en train de dire, oui, je sais ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas l'Alzheimer, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Surtout, j'ai cette révélation de la part de Dieu. À cet âge-là encore, juste avant de mourir, Jacob était un vrai prophète. Il savait deviner ce qui allait se passer. Il avait la capacité de comprendre la volonté de Dieu et de prédire le futur de ses enfants. Il avait cette capacité. Alors que lorsque nous pensons à Joseph, c'est celui qui devine tout, qui peut vraiment interpréter les rêves, etc., et qui a aussi la révélation de la part de Dieu. Mais là encore, il y a une supériorité spirituelle de la part de Jacob. Et puis, on arrive au chapitre 49, et Jacob appelle ses autres fils, et il dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Que nous puissions vraiment, à travers cet événement aussi, comprendre ce que Jacob est en train de faire. Jacob va donc parler avec une vue prophétique extraordinaire. Il sait que sa famille est une famille élue. Il sait très bien aussi que sa famille n'est pas plus sage, plus intelligente, plus fidèle, plus pure que les autres. Pas du tout. D'ailleurs, dans Deutéronome, il est dit que la famille d'Israël était le plus petit, mais que le Seigneur les a aimés. Et que malgré, ils n'ont pas de mérite, ils ont été choisis. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi Dieu choisit Israël? Ou je dirais, pourquoi Dieu nous a choisis pour que nous ayons la foi en Jésus? Pourquoi pas les autres? Ils ont entendu le même message. Et pourquoi moi j'ai un cœur ouvert à ce message-là? C'est quelque chose d'incompréhensible. En tout cas, il bénit, il transmet cet héritage spirituel à ses enfants. J'aimerais vous lire quelques versets sur ces prédications, sur ces prédictions et ces bénédictions. À Ruben, donc à l'aîné, il dit ceci, « Ruben, toi, verset 3, mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » C'est vrai que quand j'étais jeune, quand j'avais lu ce passage, j'avais rien compris. Mais en lisant en fait l'interprétation, j'ai en fait compris que, il y a très très longtemps, il avait couché avec la concubine de son père, c'est-à-dire la servante Rachel, Bila, et c'est comme ça qu'il perd le droit d'aînesse. Pourtant, il était l'aîné. Donc, encore une certaine malheur qui arrivera dans la famille de Ruben. Ce sera un tribut assez restreint. Ça ne prospérera pas comme les autres tribus. Donc, il prédit ceci. Ensuite, il prédit aussi pour les autres fils, comme Siméon et Lévi, c'est les deux autres fils, deuxième et troisième fils de Léa. Il dit ceci, « Leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, Ils ont coupé des jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà donc Simon, Siméon et Lévi sont, reçoivent un message difficile à accepter. À cause de, voilà, on a l'impression qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire que, vous savez, quand Dinah a été abusée par la fille du chef de Sichem, Siméon et Lévi décident de pratiquer une ruse pour pouvoir aussi tuer tous les hommes de ce pays. Ensuite, c'est vrai qu'ils reçoivent que cette parole où il les disperserait dans Israël. Effectivement, Lévi sera un tribu de prophètes et ils ne vont pas avoir de partage de terre. Ils vont devoir vivre dans les terres des autres, mais en assumant le rôle de prophète, le rôle de prêtre pour les autres tribus. Mais ils ont quand même été bénis, Lévi. Vous savez que c'est dans le tribu de Lévi que est né Moïse, Aaron. Hein. C'est dans ce tribu-là qu'il y aura aussi le grand prêtre. D'ailleurs, les autres tribus environ, les environs, environ, c'est ça. Hein. En voyant justement chez Aaron, il y aura toujours le grand prêtre chez eux seulement. Hein. Enfin bref, malgré les malheurs, il y aura comme une bénédiction qui sera accordée dans toutes ces tribus. Et puis, j'aimerais m'arrêter encore une dernière remarque pour la tribu de Juda. C'est la tribu qui va recevoir en fait le droit d'aînesse. C'est Ruben, si Ruben a perdu à cause de ses fautes le droit d'aînesse, ce sera Juda et Joseph qui recevraient, qui ont reçu en tout cas le droit d'aînesse. Je lis à partir de verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les filles de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils, tu ploies les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, le pacifique, hein. Le fils de l'homme, le Messie. Là, on est en train de parler du Christ qui va revenir, qui va venir avec sa postérité. Et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne de son âne et son meilleur cep, le petit de son ânesse. Il lave dans ses vins son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Là, il y a une prédiction de ce qui va se passer auprès du Fils, le Fils qui va mourir, mais pour le salut de tout le monde. Mais aussi, il est en train de dire aussi que dans cette tribu de Juda, il y aura aussi des rois. Vous savez, c'est David qui est né de cette tribu de Juda, et que la royauté demeurera dans cette tribu de Juda. Donc, il y a une grande bénédiction du droit d'aînesse, mais aussi, voilà, le tribut qui va engendrer le Messie, le Christ. J'aimerais encore vous lire quelques versets sur la bénédiction accordée à Joseph. Verset 22 jusqu'au verset 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre de tout puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voilà donc une éloge, une bénédiction, sur une belle bénédiction en tout cas sur Joseph. Que toutes ces paroles de bénédiction soient aussi sur chacun d'entre nous. En tout cas, ce que nous avons appris à travers toutes ces prédictions, tout ce qui allait se passer par la suite dans les tribus d'Israël, parfois nous récoltons ce que nous semons. Mais aussi, malgré tout, le Seigneur accorde sa bénédiction. Malgré tout, il y aura une transmission de la foi dans toutes ces tribus-là. Après, il y a des gens qui se disent, j'ai entendu des gens qui se disent, mais pourquoi il y a eu cette inégalité de partage de bénédiction? Jacob dit, Dieu n'est pas injuste. Il a distribué cette bénédiction selon leur foi, selon leur bénédiction, selon leur foi, leur capacité de contenir ces choses. Au verset 28, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit. Chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Après avoir transmis sa foi, après avoir prédit, après avoir transmis cette spiritualité à ses enfants, il meurt à l'âge de 147 ans. Mais vous savez aussi que la mort n'est pas la fin de tout, c'est juste une porte pour accéder aussi à l'autre monde. Il avait effectivement, toute sa vie, des preuves. Il a chéri, il a aussi espéré cette patrie céleste. Et il nous invite aussi vraiment à vivre en ayant cette espérance dans l'au-delà. J'ai été crucifié dans Galates 2:20 avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui, nous devons aussi vivre avec le Christ qui vit en moi. Que nous puissions, comme Jacob aussi, préparer cette mort, puisque nous allons tous mourir un jour, n'est-ce pas? Je peux prédire quelque chose, vous allez tous mourir. Moi aussi d'ailleurs. À moins que Dieu revienne, entre-temps, Jésus revienne. J'aimerais conclure avec cette parole de Hébreux 11, verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Voilà, on voit bien que Jacob était malade. Il avait besoin de ce bâton-là pour peut-être se tenir debout, pour marcher, pour pouvoir aussi bénir les autres. Ce bâton l'avait toujours accompagné, même lorsqu'il avait la santé. Quand il a traversé le Jourdain en allant vers chez Laban, il avait aussi ce bâton. Puis en revenant aussi, il avait toujours ce bâton. Je suis trop petit pour, chapitre 32, verset 10, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Voilà, j'avais juste un bâton et maintenant j'ai plein de bénédictions que tu as pu m'accorder. Mais ce bâton l'a toujours accompagné jusqu'à sa mort. Vous savez qu'il a été touché à la hanche et que ce bâton, sûrement, devait être très utile pour lui. Et puis durant sa vie, Dieu l'avait brisé plusieurs fois dans sa vie. Et donc il avait, voilà. Et je relis encore une fois. Par la foi de Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph. En étant mourant, ce qu'il fait, c'est vraiment de transmettre sa foi et la bénédiction aux fils de Joseph, que nous puissions vraiment... Que la vie de Jacob nous apprend que Dieu peut nous utiliser malgré nos faiblesses pour accomplir ses plans et qu'il le fera. Quoi qu'il en soit, Jacob est un homme de foi. Il a payé cher avec des épreuves pour comprendre la vraie bénédiction de Dieu. Et il apprend aussi que C'est quoi la vraie bénédiction de Dieu? C'est être dans la présence de Dieu et de lui faire confiance. Dans cette épître des Hébreux, il n'y a aucune mention de ses fautes. On voit juste que Jacob est un vieillard, mais aussi un adorateur. Il dit, il adora Dieu, il adora. Il adora appuyé sur le bout de son bâton. Oui, malgré sa maladie, malgré qu'il savait qu'il allait bientôt partir, il était un vrai adorateur, en esprit et en vérité. Il savait reconnaître la souveraineté de Dieu. Et à la fin de sa vie, il savait remercier Dieu avec action de grâce, en faisant confiance. Et surtout, il était prêt à transmettre sa foi à ses futures générations pour que cette foi perdure. Et qu'il savait aussi très bien que c'était le plus grand héritage qu'il pouvait laisser à ses enfants. Que nous puissions vraiment aussi vivre une vie où nous pouvons laisser le bon héritage à nos enfants, à nos futurs proches, à nos proches aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce que je remarque, c'est que dans Hébreu, tu ne mentionnes aucune faute de Jacob. Au contraire, tu parles de Jacob comme un vieillard qui va bientôt s'étendre sur son lit, mais qui va maintenant aller en paix auprès de toi. Il avait la paix en lui. Pendant 6 semaines, nous avons appris comment Jacob a pu progresser dans sa foi, comment il a grandi dans sa foi. C'est vrai, il a eu quand même des moments de maladresse, des moments immatures, des moments où il a été assez charnel. Mais à chaque fois, tu lui as enseigné comment grandir, comment comprendre ta parole, comment être un vrai adorateur. Et nous voyons à la fin que, oui, effectivement, il t'a adoré jusqu'au bout, appuyant sur le bout de son bâton. Nous voulons encore te prier pour que nous puissions aussi être fidèles jusqu'au bout, pour pouvoir aussi transmettre cet héritage de foi à nos proches, à notre future génération. Seigneur, que nous puissions, à travers notre témoignage, en reconnaissant ta souveraineté, malgré les épreuves, que nous puissions vraiment transmettre ce bon message. Que notre confiance aussi les touche. Notre confiance en toi les touche. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.